Bonjour les joueuses et bonjour les joueurs, vous écoutez Les Jeux du Mois, une émission de Proxy Jeux. Proxy Jeux, c'est le podcast qui vous parle de jeux de société. Je suis le pion fesseur et pour m'accompagner dans cette émission, je suis avec Kurtz. Salut Kurtz.
Salut pion fesseur, comment ça va?
Ça va et toi? C'est la première fois qu'on fait un jeu du mois ensemble.
C'est la première fois qu'on fait un jeu du mois ensemble, je suis ravi. Écoute, nickel.
Ouais, mais ce n'est pas notre premier enregistrement puisqu'on a déjà fait les dossiers
oui.
Moult fois, on pourrait
moult
dire.
Moult fois.
Les jeux du mois, c'est une émission où on va vous parler de jeux qu'on a kiffés. On peut déjà dire de quoi on va parler. Moi, je vais parler de fromage. Et toi, Kurt, tu vas nous parler de quoi?
Je vais parler de Echoes of Time.
Voilà, donc des jeux qu'on espère seront dispo en boutique, parce que tu sais, des fois, il y a une malédiction de 18 mois.
Il paraît,
voilà. On verra s'ils sont dispo à la sortie. Mais avant de commencer l'émission, on va faire des petits remerciements. Je vais te laisser, Kurt, remercier les donateurs et donatrices.
Eh bien, tout à fait. Donc, un grand merci à nos donatrices et donateurs qui soutiennent ce podcast. Donc, nous remercions Gaume, Arnaud VM, Yann Le Proto, Nico Como, Urlien, Pauvle, Pogman, El Piero 50, Psycho, Calervé, Karl Schnaps, Tespios, Raduris, la famille Guyot, Yann Solo et Alès.
Et on remercie également notre partenaire La Caverne du Gobelin. La Caverne du Gobelin, ce sont 6 boutiques à Nancy, Metz, Pont-à-Mousson, Thionville, Toul et Semécourt. Mais c'est aussi et surtout une boutique de vente de jeux de société en ligne sur cavernedugobelin.fr. Et toujours avant de commencer l'émission, on peut faire un très rapide retour sur les commentaires du précédent jeu du mois, qui était sur Insurrection et Rebirth. Donc c'était respectivement Cyrus et BenoFX qui avaient présenté ces deux jeux-là, qui avaient fait le grand retour du duo... historique des jeux du mois, j'ai envie de dire. Et du coup, on a eu 4 commentaires, dont pas mal de remerciements, parce que les gens, ils ont aimé l'émission et tout. Donc ça fait plaisir. Notamment Cal Hervé qui nous disait qu'il avait je sais plus combien d'heures d'écoute de proxy jeux. C'était assez fou.
Ouais.
Et je dénote aussi le commentaire de Laurent36, qui disait que pour lui, Rebirth, c'était un peu une synthèse entre Tigre et Euphrate, Génial et Samouraï. Donc Cyrus, il avait bien mentionné. Non, je crois que c'était BenoFX qui avait mentionné Samouraï. Un des deux avait mentionné Samouraï, en tout cas. Mais Cyrus, après, il a répondu en commentaire de dire qu'effectivement, il y a un rapport à faire avec Génial dans ce système de scoring où, tu sais, quand tu mets le Xème membre d'un groupe, tu gagnes X points. Tu vois, genre, tu mets la troisième tuile rouge, tu gagnes 3 points rouges dans Génial. Il y a un peu ce truc-là dans Rebirth, quand tu mets la troisième...
Oui, les cases de connecter les cases entre elles pour faire des grandes zones, ce genre de choses. Oui,
ouais, c'est ça.
Knidia qui recycle du Knidia, c'est très très original.
Ouais, c'est vraiment pas du tout le mec à faire ça d'habitude. Hein.
C'est vrai, pas du tout.
voilà, donc comme d'habitude, les jeux du mois, c'est pas non plus l'émission qui fait le plus de commentaires. Je sais pas si toi, Kurt, tu veux rapidement dire si t'as aimé Insurrection ou Rebirth, ou les deux, peut-être t'y as joué.
Insurrection, j'y ai pas joué. Rebirth, j'ai fait quelques parties, j'ai trouvé ça plaisant. Voilà, j'aurais plaisir à y retourner une fois de temps en temps, sans forcément en faire pour moi un jeu exceptionnel, mais agréable. Quand même, il reste agréable, oui. Et pour toi, ces deux jeux-là?
Moi, Rebirth, bof. Bof, je dirais bof moins même. Ça ressemble vraiment trop à Kingdom Builders que j'avais fait le pour et le contre où j'avais bien expliqué pourquoi j'aimais pas. Je pense que je préfère quand même Rebirth à Kingdom Builders, mais malgré tout, c'est le même feeling donc j'aime pas du tout. Et Insurrection, ça par contre, j'ai trouvé ça plutôt cool, même si je trouve qu'il arrive pas à battre Fantasy Realms, tu vois, qui est plus osé dans les effets, tu vois, Fantasy Realms.
Je vois, c'est vrai que t'es pas un fan des effets pétés, toi, donc...
Ah ouais, voilà, et puis, puis dans sa mécanique, évidemment, de pioche défaut, ses constitutions de main, il ne battra évidemment jamais le Mahjong, hein, qui est... Même pas 15 minutes de podcast, j'ai déjà mentionné le Mahjong.
Check.
Voilà. Ok, eh ben, écoute, je te propose qu'on commence pour de vrai l'émission.
C'est parti. Eh ben, écoute, tu commences, donc vas-y, allez. Tu vas nous parler de fromage.
Tout à fait, je vais parler de fromage. Alors toi, Kurt, je sais que tu y as joué, puisqu'on a fait une petite partie ensemble sur BGA.
On y a
joué. Tu as rejoué depuis?
Non, j'ai pas rejoué depuis. On a fait une partie tous les trois avec Flavien.
C'est ça. Qui nous avait montré Echoes of Time aussi le même jour. Donc tu vois, on a chacun joué au jeu de l'autre.
Voilà.
Donc voilà, on pourra rebondir. En tout cas, moi je trouve ça dommage que tu as joué sur BGA, car le premier truc en fait qui va te frapper quand tu vas voir fromage, tu vois, sur une table, c'est la mise en scène. Je pense que c'est le premier truc, tu vois, cette espèce de plateau central qui tourne. Un petit peu, tu sais, comme dans Planet Unknown. Je pense que tu as joué à Planet Unknown.
Ça me parle, oui, j'ai joué.
Et bah déjà, Planet Unknown, tu sais, les gens, ils disaient tous, ah ouais, tu sais, c'est une Lazy Susan, ils disent les anglophones, c'est genre un plateau à fromage, quoi, tu vois, qui tourne. Je crois que Flavien, même aussi, tu sais, dans des podcasts, il avait dit que c'était un plateau à fromage. Du coup, je me demande, tu vois, si c'est pas ça qui a inspiré la thématique de fromage, tu sais, de se dire, ah tiens, on va faire aussi un jeu avec un plateau à fromage, mais du coup, on va faire carrément la thématique du fromage, tu vois, j'en sais rien.
C'est pousser la thématique à l'extrême, c'est fantastique,
ouais. Ouais, c'est ça, jusque dans le matériel. Mais ça, c'est la mise en scène, mais du coup, d'un point de vue mécanique, tu vois, ce que ça implique, c'est que c'est un jeu où on va avoir chacun un espèce de mini-jeu devant nous, et on va jouer en mode simultané. Sur son quart de plateau, j'ai envie de dire, sur son mini-jeu, quoi. Et ensuite, à la fin du tour, vloup, ça tourne, et du coup, on joue sur un autre mini-jeu, quoi. Donc, ça fait un peu penser, tu sais, au jeu de draft, ou un truc comme ça, tu vois, tu sais, il y a un truc qui tourne, mais sauf que, au lieu que ce soit des cartes qui tournent, tu vois, c'est genre le plateau qui tourne. Ça fait aussi un peu penser à de la pose d'ouvrier. Moi, je vois qu'ils appellent ça de la pose d'ouvrier sur la description du jeu, parce qu'en fait, quand on va jouer sur le mini-jeu, on va placer des bonhommes, nanana. Mais je trouve que c'est différent de la pose d'ouvrier, parce que on bloque les emplacements du mini-jeu sur lequel on joue définitivement. C'est-à-dire qu'à partir du moment où je me suis posé, cette case, elle est bloquée, quoi. Donc, ça fait beaucoup plus penser à une mécanique de placement.
Oui.
Comme dans... Bah, les jeux de placement, quoi, à l'époque, quoi. Et du coup, on serait plutôt sur une genre de pause bloquante, mais on joue chacun sur une zone différente en même temps. Enfin, tu vois, c'est tellement original qu'il n'y a pas vraiment de nom pour ça, mais peut-être qu'on pourrait appeler ça un jeu de placement simultané, tu vois, un genre de mélange entre placement et choix simultané. Mais,
ouais.
Mais du coup, c'est, tu vois, c'est assez intriguant déjà en termes mécaniques, tu vois, quand tu vois ça, tu te dis tiens, c'est vrai que c'est un peu du jamais vu, un jeu de placement où on joue tous en même temps, et c'est pas genre une programmation ou un truc comme ça, c'est vraiment une partielle du plateau t'es dédié ce tour-ci et t'es obligé de jouer dessus. Donc j'ai dit ça fait penser au jeu de draft, c'est surtout le côté simultané qui va faire que, ah oui, on se dit, ça va faire en termes de dynamique, comme dans les jeux de draft, genre on va gagner du temps parce que tu sais, tout le monde joue en même temps, ça va se dérouler de manière très fluide, etc. Ça, c'est tout à fait vrai.
Absolument.
Mais du coup, il va y avoir aussi un gros inconvénient derrière ça, comme dans les jeux de draft, c'est qu'on joue un peu chacun dans son coin. Moi, je trouve ça toujours dommage dans les jeux de draft où je ne peux pas vérifier ce que les autres y font. Même typiquement, quand il y a des débutants qui jouent à table, je ne peux pas vérifier qu'ils ne sont pas en train de faire des conneries. Ou alors, c'est hyper long. C'est-à-dire, on fait notre pic de draft et ensuite, il faut regarder que tout le monde n'a pas fait de conneries. Tu vois. Surtout quand c'est des jeux un petit peu compliqués pour des débutants. Tu vois. Dans Fromage, ça va, c'est pas le pire, c'est pas aussi pire que dans du draft, parce que vu que le plateau tourne, en fait, tu vois immédiatement ce que ton voisin de droite vient de faire. Donc, disons que tu peux tout de suite vérifier, entre guillemets, s'il a pas fait de conneries déjà. Mais du coup, ça fait aussi que on a quand même une forme d'interaction indirecte un peu plus forte que dans du draft. Dans le draft, il va y avoir que, tu sais, le counter pick ou un truc comme ça. Là, il y a quand même ce truc où on se bloque sur le plateau, puisque finalement on joue tous sur le même plateau malgré tout, et du coup on a vraiment l'impression de quand même se faire gêner par les adversaires, donc ça c'est plus interactif que du draft, je dirais, même si ça reste indirect. Et aussi, tu vois, un truc que j'aime pas dans les jeux de draft, c'est que pour moi les jeux de société, c'est aussi le plaisir de regarder ce que les autres font, tu vois, ce que les autres ont joué comme coup, et
bien
du coup
sûr,
quand
ouais.
le Et voilà, et donc du coup, dans Fromage, quand le plateau te revient, bah, tu te dis, ah tiens, ok, ils ont posé leur pion de telle manière, etc. Donc ils sont en train de préparer tel truc selon le mini-jeu, etc. J'y reviendrai un petit peu sur les mini-jeux.
Oui, surtout que, comme tu disais, le plateau, il est coupé en quatre, donc le temps que ça te revienne, ce quart de plateau, le temps qu'il revienne devant toi, il y a potentiellement trois autres joueurs qui ont joué dessus, donc il s'est passé plein de choses, effectivement, ouais.
Oui, tout à fait, il y a un peu ce côté genre j'envoie le truc, tu vois, genre le plateau part à l'aventure, et puis quand il revient, je fais « Alors, qu'est-ce qui s'est passé depuis tes dernières aventures, plateau ?» Tu vois, il s'est passé des trucs, quoi. Mais voilà, donc, je suis d'accord, je trouve qu'en fait, du coup, Fromage, il a un peu les deux avantages, quand même, c'est-à-dire que t'as quand même la fluidité du simultané, donc l'absence de downtime et tout ça, donc de temps d'attente des joueurs, et en même temps, t'as quand même le sentiment de jouer au même jeu, quoi. T'es pas 100% chacun dans son coin, même si c'est pas non plus parfait, quoi. D'ailleurs, petite parenthèse, mais en fait, les gens, ils se plaignent tout le temps du downtime et tout ça. Moi, j'ai envie de dire, le downtime, c'est chiant juste dans les jeux calculatoires, hein. Quand c'est des jeux où on agit assez rapidement, quoi, c'est pas chiant le downtime, parce qu'en fait, tu regardes les autres faire des trucs. Moi, je trouve ça très satisfaisant de regarder mes potes jouer, quoi. Enfin,
oui.
Mais bon, je sais que maintenant les gens ils ont tous un TikTok brain là, dès que c'est pas leur tour, ils sortent leur téléphone ou je sais pas quoi. Donc moi, je sais pas, ou peut-être un problème d'ego, j'en sais rien, mais ils veulent pas regarder leurs potes jouer, je sais pas, moi je trouve ça rigolo, quoi, tu vois. Donc voilà. Aussi, moi je trouve que cette mécanique va créer une contrainte que je trouve plutôt élégante pour forcer les joueurs à faire un peu de tout. Parce que du coup, vu que le plateau est divisé en 4 mini-jeux et que à chaque tour tu n'as qu'un mini-jeu devant toi, bah, tu vas être quand même un peu obligé de jouer à tous les mini-jeux, tu vois.
Oui.
Tu sais, c'est un peu comme dans Agricola, où le scoring t'incite à faire de tout, tu vois. Mais je trouve que, du coup, là, c'est plus élégant de le faire via la mécanique, via cette mécanique de trucs qui tournent. Et du coup, c'est plutôt une belle manière de faire ça. Même si, du coup, je mettrais quand même un gros bémol tout de suite, c'est que les mini-jeux... il ressemble pas tant à 4 mini-jeux différents, tu vois. Ça pourrait être le truc cool de se dire « Ah putain, je suis en train de jouer à 4 jeux simultanés et tout », tu sais, un peu comme dans des jeux de Stefan Feld ou des trucs comme ça.
Ouais.
Là, franchement, les 4 mini-jeux, ils ont pas beaucoup de personnalité. Donc globalement, c'est un peu toujours pareil en termes de sentiments, tu vois.
Mais c'est vrai ce que tu dis, parce qu'en fait, si tu réfléchis, dans Agricola, potentiellement, tu peux jouer toujours au même endroit, même si à la fin, le score va te punir.
Oui,
là, physiquement, tu vas te rendre compte que si tu décides de jouer toujours au mini-jeu, il va se passer 3 tours où tu vas faire rien. Et effectivement, le jeu va te dire... c'est le jeu qui te dit « Bah si, fais quelque chose. »
Ouais,
c'est ça. Alors que dans Agricola, tu t'en rends pas forcément compte. C'est hyper intelligent, oui, de la part du jeu de te rappeler que « Bah si, joue quand même, fais un truc à chaque fois, sinon tu vas dans le mur, quoi. » Non, c'est malin, oui.
Et ouais, je disais effectivement... Il y a ce truc de chaque mini-jeu est un petit peu le même sentiment malgré tout, tu vois. C'est-à-dire qu'en fait, on se place, tu vois, il y a des endroits qui vont être plus intéressants que d'autres, et du coup, bah, on va se bloquer, et puis on va faire du score à chaque fois d'une manière différente, mais voilà. Alors, si je devais un peu classer les mini-jeux, tu sais, du plus intéressant au plus nul, je pense que mon préféré, ça reste la fromagerie, parce qu'en fait, tu te places, mais au passage, t'as des petits effets. Bon, c'est vite fait, des petits effets, hein, tu vois, ils sont pas non plus incroyables, mais voilà, ça fait un petit peu de choses. Après, je trouve que les villes, c'est sympa aussi, parce que c'est de la majorité, donc tu ressens beaucoup plus, je trouve, l'interaction avec les autres, du fait de la majorité. Et après, les deux autres, donc le festival, bon, le festival, à la limite, il est original mécaniquement pour le principe de placement où il y a certaines cases qui servent à tout le monde, ça c'est assez rigolo. Mais en fait, en termes d'émotion, c'est pareil que d'habitude, quoi. C'est je fais un placement et j'essaye de faire des connexions et les autres essayent de me bloquer, quoi. Donc voilà, ça pas terrible. Et je trouve que le dernier, là, le bistrot, c'est encore plus OSEF, tu vois, c'est encore plus je m'en fous parce que c'est juste, ouais, faut se placer, essayer de faire des paires. Bon, je m'en fous total, tu vois.
Oui.
Mais là, ça fait bizarre parce que tu vois, je mets ce jeu dans les jeux du mois et je suis en train de dire que les mini-jeux sont nuls. Mais c'est parce qu'en fait, au final, le choix du placement, c'est pas un choix giga stratégique. En fait, tu te places un petit peu au bonheur, la chance quand t'as le plateau devant toi, mais c'est pas vraiment là qu'est l'enjeu du jeu, en fait, de Fromage. Parce que il y a un deuxième élément de mise en scène qui est très intéressant, c'est que Effectivement, c'est quand même un peu une pose d'ouvrier, entre guillemets, parce qu'on place des petits bonhommes, et quand on va les placer, en fait, on va les récupérer à un moment donné, je vais y revenir, mais ils vont, comment dire, avoir un petit jeton de fromage en dessous d'eux, en bois, comme ça. Et quand ils partent, du coup, le petit jeton de fromage va rester. C'est hyper pas podcastique ce que je raconte. Allez regarder des vidéos si vous voulez comprendre. Mais l'idée importante, c'est que vous posez votre ouvrier, et quand il se barre, ça révèle un petit fromage en dessous de lui qui va concrètement bloquer la case pour toujours. Donc, c'est comme si vous avez bloqué la case avec votre fromage. Voilà, en fait, on est en train de faire un fromage, littéralement. Et l'ouvrier, en fait, et c'est là la deuxième dynamique intéressante du jeu, on va pas le récupérer tout de suite. En fait, il reste sur le plateau, il va pas tout de suite... C'est pour ça qu'il y a cet ouvrier. On va le récupérer seulement quand il va nous faire face. Parce qu'en fait, les cases ne sont pas orientées dans la même direction. Il y en a qui pointent à gauche, en face ou à droite. Et du coup, ça va faire que notre ouvrier, soit on le récupère dès qu'il va y avoir la rotation, donc c'est-à-dire au prochain tour, soit dans deux rotations, donc dans deux tours, ou dans trois rotations, dans trois tours. Voilà. Et le truc,
Le fromage est long à affiner, plus l'ouvrier va mettre de temps à te revenir.
Exactement. Ouais, c'est un peu comme si genre, il travaillait pendant trois tours, quoi, avant que tu le récupères. Tu sais, un petit peu comme dans Barrage, où tu mobilises des machines, et tu sais, elles vont être dans cette espèce pareil de cercle qui tourne, qui va les faire avancer. Mais sauf que dans Fromage, ça avance vraiment tout seul, quoi, tu vois. C'est, le temps avance tout seul. Et du coup, le truc, c'est qu'on a trois ouvriers, et on peut en envoyer jusqu'à deux par tour. Parce qu'en fait, ce que j'ai pas dit, c'est que dans chaque quart de plateau, il y a un mini-jeu face à nous, et il y a aussi une autre action. Une action qui est spécifique aussi à notre quart de plateau, et qui va nous permettre de récupérer ce qu'ils appellent des ressources. On en reparle tout à l'heure des ressources, mais ce qui est important de se dire, c'est que du coup, on peut faire une action de ressources plus une action de mini-jeu, donc on peut poser jusqu'à deux ouvriers par tour. Mais vu qu'on ne les récupère pas tout de suite, il y a tout un truc à faire, à réfléchir si on veut faire, parce que évidemment tu te doutes bien qu'il y a de l'équilibrage, si on veut faire des actions faibles mais qui vont nous permettre de récupérer les ouvriers dès le prochain tour, ou des actions très fortes mais on ne les récupère pas avant deux voire trois tours. C'est bien équilibré quand même, hein, c'est logique.
Plus tu veux récupérer de ressources d'un coup, plus ça va prendre longtemps.
Et c'est là qu'est vraiment le cœur du jeu, en fait. Tu vois, on doit essayer de trouver en fait ce rythme pour envoyer les ouvriers au bon endroit au bon moment. C'est ça que j'appelle le tempo, justement. Moi, j'avais fait une chronique sur ça, si ça vous intéresse, vous irez la réécouter. Mais le tempo, c'est surtout quand un coup n'a pas la même valeur d'un joueur à l'autre, déjà, mais aussi d'un tour à l'autre. Et du coup, c'est pour ça que c'est une question de moment, de se dire « Ah, ok, là, c'est le moment de sacrifier un ouvrier pour trois tours parce que cette action-là, j'en ai absolument besoin. » Tu vois. Donc, c'est pas vraiment un jeu de placement dans le sens « La question, c'est pas où je me place dans le mini-jeu pour gagner des points, c'est plutôt quand est-ce que je me place sur tel ou tel emplacement, quitte à abandonner mon ouvrier pour plusieurs tours. » Je dirais même, ça peut même aller plus loin que ça, c'est parfois même, est-ce que tu veux mettre ton ouvrier sur le mini-jeu déjà ? Ou est-ce que tu ne le fais pas ? Parce que j'ai dit que tu pouvais faire jusqu'à deux actions par tour, mais du coup, si dès le début tu fais deux actions et tu bloques tes ouvriers pour trois tours, bah déjà au prochain tour, tu n'as plus qu'une action. Tu vois, tu n'as plus qu'un ouvrier sur trois, parce que les deux autres sont mobilisés. Donc, si tu as envie de garder un bon rythme, entre guillemets, tu as envie d'avoir toujours deux ouvriers par tour. Pile poil. Si jamais tu te retrouves avec zéro ou un ouvrier, bah, tu vas potentiellement, entre guillemets, soit passer une action, soit si tu as zéro ouvrier, en fait, concrètement, tu passes ton tour.
Absolument.
Excellent, déjà. Alors moi, déjà, je suis content qu'un jeu en 2026, mais alors je crois qu'il est sorti en 2024 aux États-Unis, tu vois, mais un jeu très récent, comme ça, on peut passer son tour, quoi. Ça, c'est cool, tu vois, c'est osé en termes de game design. Tu vois, t'as vraiment un truc que t'as pas envie de faire, quoi. T'es presque puni parce que t'as fait des grosses actions, quoi. Mais il y a aussi l'inverse que t'as envie d'éviter, c'est-à-dire que t'as pas envie de te retrouver avec tes trois ouvriers devant toi, parce que vu que tu peux en jouer que deux par tour, en fait c'est sous-optimisé.
Il y en a un qui serait gâché, effectivement.
Voilà, c'est ça. Il y en a un qui va rien faire. Donc du coup tu te dis, ah non, putain, j'aurais pu l'envoyer un tour de plus, tu vois. Mais sauf que évidemment, cet idéal d'avoir deux ouvriers par tour, tu vas pas le maintenir parce que parfois ça vaut le coup selon le tempo et avec ce système de roues qui tourne là, de faire une action qui est plus puissante, etc. Et je trouve ça cool que vu que tu sais t'as un quart de roue devant toi, tu sais la décision tu la prends tout de suite, tu vois, c'est le moment présent. Maintenant ou jamais, t'envoies ton ouvrier et ensuite, hop, la roue, elle part et tu pourras plus jamais faire ce mini-jeu. Enfin, pas plus jamais, mais tu pourras plus faire ce mini-jeu avant 4 tours, quoi.
Oui, et puis surtout, est-ce que l'action qui t'intéressait sera encore disponible quand ça te reviendra ?
Exactement, ouais.
Tu vois.
Tu sais, ça me fait penser à Carcassonne, tu sais, où tu pioches ta tuile et tu poses ton ouvrier, c'est maintenant, enfin ton meeple, maintenant ou jamais, tu vois.
C'est ça.
Et ça me fait penser aussi à ce que Alan Moon, donc l'auteur des Aventuriers du Rail, il disait que lui il aimait bien faire des jeux où dès que tu fais des choix assez simples, mais très rapidement tu dois voir les conséquences de tes choix, tu vois.
Ouais.
Tu sais, genre au bout de 3 tours tu dois regretter par exemple, tu vois. Et tu vois, j'ai un peu ce truc là, tu vois, dans Fromage, c'est immédiat, mais très vite après tu dis putain, j'aurais dû garder mes ouvriers, tu vois. Surtout qu'en plus, y a une contrainte supplémentaire, c'est que les bonhommes ont des couleurs, donc il y a une petite contrainte de placement au moment où tu les places, quoi. Mais voilà. Souvent, c'est pour ça que tu vas faire gaffe, peut-être, à garder un tel, parce que tu vois que dans le plateau qui arrive, tu as envie d'aller sur tel emplacement particulier, quoi. Donc voilà, tout ça pour dire que tu as envie de créer un espèce de flux d'ouvriers, tu vois, qui va suivre un peu le flux du jeu. Tu vois, t'as un flux de base qui est dicté par la rotation du plateau, et toi, t'as envie de t'aligner sur ce flux-là. Mais avec quand même des moments où le coup d'éclat va être nécessaire, et du coup, tu vas mobiliser ton ouvrier. Je trouve, moi, ça me fait vraiment penser à ça, que ton ouvrier, il est comme mobilisé, tu vois, pour une tâche importante pendant 3 tours.
Oui,
moi, ça me fait penser aux jeux vidéo RTS, tu sais, où tu sais, t'envoies un bonhomme, je sais pas, construire un bâtiment, et du coup, ton paysan ou ton ouvrier, il peut pas faire autre chose pendant ce temps-là, tu vois.
Oui, absolument.
Mais ouais, j'ai un autre exemple dans le jeu vidéo, alors un exemple très obscur, peut-être que des gens y ont joué, mais il y avait un jeu vidéo sur Papyrus, tu sais, le dessin animé Papyrus, je sais pas si tu vois.
La BD égyptienne ?
Ouais, qui est une BD, oui. Mais c'était aussi un dessin animé, effectivement. Et ben, t'avais un jeu vidéo sur Papyrus et le système de combat marchait comme ça, c'est-à-dire que t'avais des attaques nulles qui faisaient pas beaucoup de dégâts, mais c'est tout quoi. Et t'avais des attaques plus fortes qui faisaient plus de dégâts, mais du coup, ton mec était bloqué pendant 1 voire 2 tours, tu vois.
D'accord, oui, absolument, je vois.
Et comme dans Fromage, quoi, t'avais vraiment 3 niveaux d'attaque, tu vois. C'était vraiment très intéressant, tu vois. Mais en jeu de société, tu vois, j'ai pas trop d'exemples de trucs comme ça. Je pense éventuellement à Underwater Cities, qui a un système d'action où tu peux faire une action faible, moyenne ou forte, mais ça va pas te bloquer pendant des tours, ça va juste déterminer quelle carte t'as le droit de jouer. Est-ce que t'as le droit de jouer une carte forte, moyenne ou faible, tu vois. Genre, si tu fais une action faible, tu peux jouer une carte forte.
Ouais, non, effectivement, ouais.
Ou éventuellement, ça fait penser à Tsolkien. Mais je trouve que c'est encore différent. En fait, on pense à Tsolkien surtout pour la mise en scène de roues qui tournent, quoi.
Oui, bien sûr, oui.
Mais Tsolkien, c'est quand même plus genre ton ouvrier, il est bloqué et il va, comment dire, son action va se bonifier à mesure que tu attends, que tu le laisses dans la roue, quoi. Et à un moment donné, tu récupères tous tes ouvriers d'un coup, quoi. Et là, ils font leur action. Alors que dans Fromage, c'est l'inverse. C'est-à-dire que dans Tsolkien, je sais pas, effectivement, tu vas l'attendre peut-être 3 tours et du coup, il fera une action niveau 3. Alors que dans Fromage, tu fais d'abord l'action au moment où tu poses ton ouvrier. Et ensuite, il est bloqué pendant 3 tours, tu vois.
Oui, bah, si les auditeurs ils ont des exemples à nous donner, on prend dans les commentaires.
Carrément, ouais. Mais du coup, tu vois, la différence entre Fromage et Tsolkien, c'est un peu la différence entre Agricola et Kélus. Tu vois, tu sais, c'est le moment où dans Agricola, c'est le moment où dans la pose d'ouvrier, c'est devenu immédiat l'action. Tu sais, tu te poses, tu fais l'action, quoi.
Ouais.
Et Fromage, tu vois, c'est vraiment ça, mais appliqué à la mécanique de Tsolkien. Alors que, bon, moi, tu vois, je suis pas un grand fan de Tsolkien, je trouve que c'est un peu trop calculatoire, tu vois. C'est intéressant comme mécanique, mais tu vois, je vais préférer jouer à Fromage, tu vois, à choisir entre les deux. Mais du coup. Il reste le dernier point à aborder important quand même, c'est ces fameuses ressources là. Donc je t'ai dit qu'à chaque tour on faisait un mini-jeu et on acquérait une ressource. Ces ressources là, c'est un peu comme 4 autres mini-jeux finalement, puisqu'en fait on va les acquérir sur un plateau personnel qui va être un peu divisé justement en ces quatre endroits où on met les ressources, qui sont justement ces espèces de mini-jeux. Alors, ça a l'air banal dit comme ça, c'est-à-dire qu'on a les fruits et les cartes qui sont des espèces d'objectifs pour gagner des points, genre il va falloir se placer sur certains emplacements du plateau pour les valider. On va avoir les animaux qui nous font des actions bonus, voilà, si on arrive à les collecter. Et on va avoir les bâtiments qui vont nous permettre de faire du tableau building et de débloquer du coup des pouvoirs permanents. C'est pas des trucs très nouveaux, mais je trouve que c'est vachement plus rigolo que les mini-jeux de placement sur le plateau central, car déjà ils ont plus de personnalité entre eux, tu vois, c'est-à-dire que les quatre jeux sur le plateau central c'est juste du placement et j'essaye de faire des points et je me bloque. Alors que là, ils ont tous un petit mécanisme différent, tu vois, ne serait-ce que quand je t'ai dit tableau building et objectif, c'est quand même deux trucs différents, tu vois, dans un jeu.
Absolument.
Et pour te donner une idée de ce qu'il y a de différent, évidemment, tu vois, moi, mon préféré, ça va être les bâtiments, parce que, comme je l'ai dit, il y a des petits pouvoirs, tu vois.
Évidemment.
Et surtout qu'en plus, le jeu, il est très généreux, parce qu'en fait, il y a un mode de base avec quatre bâtiments de base par plateau, qui sont pas les mêmes d'un plateau à l'autre, ça c'est cool. Mais en plus, t'as un mode avancé où tu peux genre drafter des bâtiments parmi une pioche de... Je sais même plus combien il y en a, il y en a au moins 30 ou 40, mais beaucoup quoi, tu vois. Qui fait que du coup, ouais, t'as de quoi renouveler tes parties, tu vois. Alors même si moi je pense que je jouerai pas en mode draft, mais en mode vas-y pioche 4 bâtiments random et puis démerde-toi avec, tu vois. Comme à... Tu sais, ça fait penser à Res Arcana, tu vois, où est-ce que tu joues avec le mode draft ou est-ce que tu joues avec le deck random. Ou à Agricola, hein, tout simplement, où tu as les savoir-faire et les aménagements mineurs. Et ouais, du coup, après, sinon, les autres, donc les commandes, les fruits et les animaux, je trouve qu'en fait, ils marchent très bien avec le jeu parce qu'ils appuient la dynamique que j'avais dit qui était intéressante dans le jeu, c'est-à-dire le tempo. C'est-à-dire qu'ils vont créer ces espèces d'opportunités, tu vois, qui font qu'il y a des emplacements qui vont devenir plus intéressants. Parce que, bah ouais, du coup... Les commandes me disent « Ah, il faut que tu te places sur un triangle bleu pointé vers la gauche. » Bah du coup, ça fait qu'il y a des cases qui deviennent soudainement plus intéressantes et j'ai très envie d'aller les prendre, tu vois.
C'est vrai que si le triangle bleu qui pointe vers la gauche, en plus, il peut te rapporter un petit truc sur ton plateau perso, tant qu'à faire.
Ah, c'est ça. Et ça donne un petit sentiment de combo, tu vois. Enfin, c'est pas de la combo, mais c'est plus le sentiment d'enchaîner, tu vois, des trucs. Genre, des fois, tu vas placer un bonhomme, boum, tu valides un fruit, boum, tu valides une commande. Ensuite, tu fais une action supplémentaire. Ah oui, mais ça trigger mon bâtiment qui fait ça. Enfin, tu vois, ça peut donner des tours où il se passe plein de trucs de manière un peu explosive, quoi. Donc, tu vois, je trouve que c'est un peu l'inverse du plateau central aussi, dans la mesure où c'est des mini-jeux hyper simples, mais suffisamment distincts les uns des autres en termes de sentiment de jeu, parce que c'est ça qui est important, hein, c'est le sentiment de jeu. Absolument. Pour que ça crée, tu vois, le plaisir d'y participer à ces mini-jeux, tu vois. Alors que, à l'opposé, le plateau central, c'est des jeux que je trouve beaucoup plutôt tarabiscotés pour être au final la même chose en termes de sentiment et de dynamique, tu vois.
Oui, ouais, je vois.
Et pour appuyer en plus cet argument du tempo, l'action de prendre des ressources, à chaque fois, tu peux la faire au niveau 1, 2 ou 3, et évidemment, ton bonhomme ne va pas pointer dans la même direction, ce qui fait que si tu décides de prendre genre 3 fruits, bah, ton bonhomme sera mobilisé pour 3 tours. Donc on revient sur ce truc de tempo, mais là, tu sais ce que je te disais, où c'est maintenant ou jamais, c'est encore plus fort, parce que tu te dis, ok, là c'est le moment de prendre des fruits, parce que je n'aurai pas de fruits avant 4 tours sinon, tu vois.
Et surtout... Autant sur les fromages, sur les autres mini-jeux, c'est bloquant. Autant là, sur les ressources, le fromage disparaît quand tu récupères ton meeple. Mais le temps que tu récupères ton meeple, la case est bloquée pour tout le monde. Ça, c'est intéressant aussi, c'est à voir.
Ouais.
Est-ce que je veux bloquer la ressource 3 pour tous les autres joueurs? Bah, pourquoi pas?
Tout à fait. Bon, après, moi, je t'avoue que je joue pas trop en mode counter-pick, tu vois. Je trouve que t'es pas... Finalement, l'interaction est quand même plus indirecte que ça, je trouve. Mais c'est vrai qu'après, quand t'es un PGM, tu vois, tu peux, quand t'es un pro de fromage, tu peux commencer à réfléchir là-dessus. Mais c'est vrai que vu que tu vois tout le plateau, tu pourrais théoriquement vachement anticiper et tout. Mais je trouve que ça va parce que moi, tu sais, ce serait le genre de truc qui me saoulerait parce que ça pourrait devenir très vite calculatoire et je déteste ça. Mais en vrai, ça va, tu vois, parce que t'as pas trop d'intérêt à faire ça. Tu peux jouer dans ton coin, enfin dans ton quart de plateau. Moi, je regarde juste celui à ma droite, c'est-à-dire celui qui va m'arriver dans la gueule autour d'après, tu vois, pour anticiper, tu vois, un petit peu, mais...
Oui, bien sûr.
T'as pas...
Non, mais après, il y a l'effet inverse, c'est tu te dis, ah, dans deux coups, il y a la ressource bâtiment qui me revient, je vais
Oui.
pouvoir en prendre trois, je vais pouvoir faire tel truc, et quand ça arrive devant trois, devant toi, ah bah, je peux pas en prendre trois.
C'est ça, ouais, voilà.
Voilà.
Oui, c'est pas une décision pour faire chier les autres, mais c'est un truc qui, par un peu le biais de l'interaction indirecte, des fois, t'es emmerdé, tu vois. C'est encore un...
C'est ça, voilà.
Encore une histoire de tempo, finalement. Et du coup, ce truc-là, donc ce sentiment de combien tu dois prendre de ressources maintenant, tout de suite et tout, ça va, et ces espèces de mini-jeux supplémentaires, moi, ça me donne un sentiment très particulier que j'appellerais de jouer à un jeu à l'allemande des fin des années 90, début 2000. Alors, je vais expliquer pourquoi je pense ça. Mais moi-même, j'ai eu du mal à expliquer à 100% pourquoi j'ai ce sentiment-là, tu vois. Mais j'aurais l'impression que Fromage, tu vois, c'est un vieux jeu dans ma tête. Exemplairement, je pense que la plus grosse comparaison que je peux faire, c'est avec Amun Re. Parce que dans Amun Re, t'as ce système de centrale qui est l'enchère, du coup. T'as un jeu d'enchère qui te permet d'acquérir des zones. Et ensuite, tu vas pouvoir dépenser ta thune pour acheter trois types de ressources qui sont en fait trois espèces de mini-jeux différents, tu vois. T'as les cartes qui sont des espèces de pouvoirs spéciaux. C'est un peu comme les bâtiments dans Fromage, tu vois. T'as les petits bons hommes que tu places pour aller récolter de la thune, là, qui sont des points de victoire, en fait, qui vont te générer des points de victoire. Et t'as les pyramides qui vont aussi te générer des points de victoire. Non, j'ai dit n'importe quoi, pardon. Les bonhommes, ça te génère de la thune pour les enchères suivantes, tandis que les pyramides te fournissent des points de victoire.
Ouais.
Et donc, t'as ça, et tout ça mélangé à un autre jeu qui est le jeu d'enchères. Donc, tu vois, t'as comme dans Fromage, tu vois, t'as une sorte de truc central et de truc personnel, un peu, tu vois. Parce que tu vois, dans Fromage, t'as 4 mini-jeux sur ton plateau personnel, 4 mini-jeux sur le plateau central, un petit peu. Et à Amun Re, t'as aussi 3 mini-jeux, un peu comme je viens de dire, avec les ressources, comme ça. Et t'as aussi 3 mini-jeux dans le plateau central, parce que tu sais, t'as l'enchère pour acquérir les trucs. Mais après, t'as une phase où on fait un choix simultané, où on mise de la thune pour savoir s'il va y avoir la crue du Nil ou pas. Ouais. Voilà, tu vois, il y a plusieurs espèces de jeux en un. Et c'est pour ça que je te dis, ça fait très jeu à l'allemande de cette époque, parce que je trouve qu'il y avait beaucoup ce truc-là dans des jeux où tu avais un gabarit que je dirais de complexité moyenne. Tu vois, c'était pas des party games, mais c'était pas non plus des gros jeux de gestion compliqués, tu vois.
Oui.
Tu vois, aujourd'hui, de nos jours, t'as soit les PPP, tu vois, ou les mini-euros, tu vois, soit les jeux de gestion trop compliqués. T'as à peu près que ça, tu vois. Et à l'époque, t'étais plus dans un entre-deux, avec toujours un thème plaqué. Tu sais, les jeux à l'allemande, c'est bien connu pour avoir des thèmes plaqués.
Oui.
Donc, t'étais dans une sorte de gameplay pur. Et à l'époque, c'était toujours des jeux avec un vrai twist, tu vois, une vraie figure de style, comme je dirais. Là, en l'occurrence, tu vois, dans Fromage, ce serait ce truc de pose d'ouvrier bizarre, là. Et surtout, t'avais ce truc de mix entre plusieurs phases. Tu vois, dans Amun Re, comme je te dis, t'as d'abord la phase d'enchère, ensuite la phase où t'achètes tes petites ressources, ensuite t'as la phase de choix simultané, d'enchère simultanée pour la crue du Nil. Je peux te donner d'autres exemples. T'avais des jeux comme, par exemple, Les Princes de Florence, où, pareil, il y avait plein de petits mini-jeux, mais tu sais, c'est « Ah, alors d'abord, on fait une phase d'enchère, on va acquérir des ressources. Ensuite, on a tous deux actions pour acquérir d'autres ressources. » Et chaque type de ressource, c'est une espèce de mini-jeu, parce que les bâtiments, c'est des polyominos. Les saltimbanques, bon, eux, ils n'ont pas de placement, mais ils marchent pour tous les bonhommes. C'est des espèces de jokers. Enfin, tu vois, t'avais aussi des espèces de cartes qui te donnaient des objectifs, un petit peu comme les cartes de commande dans Fromage, tu vois.
Oui.
Tu vois, c'est plein de petites sous-phases comme ça. Je t'en cite d'autres juste pour les name dropper, pour pas aller plus loin, mais t'avais Ispahan, je trouvais qu'il était comme ça aussi. San Marco, un jeu de placement aussi d'ailleurs. Torres, aussi un jeu de placement. Tu vois, moi je ressens cette vibe. Mais Fromage, il a quand même, malgré tout ça, tu vois, une fluidité des jeux modernes. Typiquement, tu vois, il y a plus d'enchères, par exemple. C'est les enchères, c'est ringard, les enchères.
C'est pas des phases... Alors si, c'est des phases qui se succèdent, mais elles se succèdent... Là, dans Fromage, elles se succèdent intriquées. Elles se
Eh oui.
succèdent, intriquées les unes dans les autres pour tout le monde. C'est pas tout le monde fait les enchères, puis tout le monde fait ci, puis tout le
Tout
monde
à
fait ça.
fait.
Et il y a tout le monde qui fait tout en même temps, ça tourne, ouais, c'est.
Eh ben, tu as tout à fait anticipé mon point suivant, et tu as raison, c'est qu'effectivement, c'est pour moi, là, toute l'intelligence de fromage, en fait, c'est comme si on faisait toutes ces phases-là, mais pas en même temps. C'est-à-dire qu'il y en a un, il est en train de jouer à la phase 1, l'autre, il joue à la phase 2, l'autre, il joue à la phase 3, l'autre, il joue à la phase 4, tu vois. Bon, c'est pas des phases aussi différentes que dans Amun-Re, par exemple, tu vois. Finalement, les phases, c'est toujours une acquisition de ressources plus un mini-jeu, tu vois. Mais ça serait fascinant, un jeu qui réutiliserait la mécanique de fromage pour faire ces quatre phases complètement différentes, tu vois, ou que ce serait vraiment des jeux différents cette fois, tu vois.
Oui.
Mais oui, tout à fait. Ben voilà, moi, je suis entièrement. On est en phase là-dessus, effectivement. C'est ce truc de faire des phases simultanées, quoi. Je peux citer au passage le jeu Colonia, qui est un jeu de Dirk N, où il y avait aussi ce truc de phases successives que je trouvais intéressant, où on jouait à un jeu de création de ressources, puis ensuite, deuxième phase, on convertit les ressources de la phase 1 vers une autre type de ressources. Phase 3, on va les convertir vers un autre type de ressources. Phase 4, encore un autre type de ressources, etc. Tu vois, on fait que de la conversion de ressources, mais par une succession de mini-jeux comme ça qui se succèdent. Sauf que dans Colonia, on fait tous en même temps la phase 1, tous en même temps la phase 2, tous en même temps, tu vois. Mais faudrait imaginer ça, tu vois, mais avec un plateau de fromage, ce serait beaucoup plus intéressant, je pense. Et comme on parle de mini-jeux, je peux évidemment ne pas faire une comparaison aussi avec les jeux de Stefan Feld. Mais je trouve que c'est quand même différent. Ou alors faudrait qu'on parle de Feld à l'époque où il avait fait Notre-Dame, donc vers le début. Mais Feld, on est beaucoup plus, t'sais, dans de la salade de points. Genre, tu fais n'importe quoi, boum boum boum, tu gagnes des points. Fromage, il est plus rigide, je trouve. Tu vois, c'est des mini-jeux plus simples, plus petits, et qui ne donnent pas non plus des tonnes et des tonnes de points. D'ailleurs,
Non, effectivement.
tu les mets tous à la
Ouais.
fin de partie, déjà
Oui.
les points, tu vois. Et comme dit, bah, les mini-jeux sur ton plateau personnel, ils appellent ça même pas des points, enfin, c'est des ressources, ils appellent ça, tu vois. Je sais même pas si on peut appeler ça un mini-jeu, tu vois, c'est juste que c'est des ressources qui fonctionnent toutes d'une manière différente. Donc voilà, Stefan Feld, on serait sur un truc beaucoup plus tarabiscoté, je pense, mais aussi beaucoup plus original. Feld, lui, tous ses mini-jeux sont plus originaux que les mini-jeux de fromage. Et dans un truc beaucoup plus intriqué dans Feld. Il y a toujours ce truc où tous les mini-jeux, à un moment donné, ils sont intriqués entre eux, ils donnent des bonus dans les autres et pou. Et un peu comme dans Tréfuté, tu vois, ça fait poum 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 poum, ça
Oui,
rebondit,
bien
tu vois.
sûr, oui. Ou Gatsby récemment, oui.
Oui, donc voilà. Donc fromage, t'es pas non plus dans des rebonds incroyables, mais ouais, t'es plus dans un truc pur où. En fait, c'est pour ça que je dis jeu à l'allemande aussi, c'est que je trouve que c'est beaucoup plus clair, tu vois. Chaque chose est claire. Bien que ça soit pas thématique, tu vois, je sais pas, tu te dis, ah oui, bah oui, cette ressource-là, c'est cool, c'est un petit mini-jeu tout simple, mais du coup, c'est agréable d'y jouer parce qu'il tourne autour de cette mécanique de tempo, quoi. Et le dernier truc que je vais dire avant ma conclusion, c'est parler un petit peu des auteurs, parce que c'est Matthew O'Malley, je pense que ça se prononce, comme le chat des Aristochats,
C'est ce que j'étais en train de me dire, oui, effectivement.
et Ben Rossett, je pense, Rosset. Pourquoi je parle d'eux? Bon, ils ont fait À la recherche de la planète X. C'est un bon jeu, mais on s'en fout, ça n'a rien à voir avec Fromage. Mais surtout, c'est les auteurs de Between Two Cities.
Ah oui.
Et en fait, je vois un gros rapport avec Between Two Cities parce que dans Between Two Cities, tu as le même truc où tu as des scorings. Tu sais, c'est un city builder. Donc, tu vas avoir, comme d'habitude, un système de scoring pour chaque type de bâtiment, nanana. Mais les systèmes de scoring, on s'en fout total dans Between Two Cities, tu vois. Je veux dire, c'est, t'as une majorité, t'as des groupes, t'as des lignes, enfin, des trucs chiants comme la pluie. Mais le jeu est génial parce que tout l'intérêt est dans le fait que tu joues avec avec ton voisin de gauche et ton voisin de droite, où, en fait, tu vas pas faire un tableau devant toi, mais à ta gauche et à ta droite. Et donc, t'as des plateaux communs avec tes voisins, quoi. Et du coup, tu vois, c'est une mécanique super originale. Et c'est ça qui va créer une dynamique trop bien dans le système de draft, parce qu'il s'avère que c'est un draft, puisque du coup tu vas commencer à négocier, à dire ah vas-y on essaie de mettre ça là et tout, et tu réfléchis avec tes voisins, quoi. Mais tu vois, c'est un truc que t'as jamais vu en fait jusque-là, de tchatcher avec tes voisins en mode pas vraiment coop, en mode plutôt t'es en équipe, mais des équipes où t'es en même temps. Tu vois, t'es en équipe avec ton voisin de gauche et ton voisin de droite, mais il est lui-même en équipe avec quelqu'un d'autre. Donc tu vois, en même temps, c'est un peu ton ennemi, tu vois.
Oui, comme oui.
comme dans le Trône de Fer Betwixt.
Exactement. Oui.
Mais bon, là, Betwixt, on est beaucoup plus sur le truc de bâtard, là, par contre. Between Two Cities, c'est plus positif, tu vois. Mais voilà, du coup, je vois vraiment un rapport avec Fromage où, tu vois, ils font des mini-jeux inintéressants, tu vois, des scoring inintéressants, mais par contre, leur mécanique centrale, elle crée tellement de dynamique qu'en fait, tu dis, bah oui, en fait, c'est pas grave que vos mini-jeux soient intéressants parce qu'en fait, c'est pas là qu'est le jeu, en fait. Le jeu, il est dans votre mécanique principale et qui est géniale et qui est pas trop lourdingue. Et ben, c'est parfait, tu vois. Moi, je trouve que ça fait des bons jeux et c'est cool. Mmh. Voilà, bah écoute, je fais une petite conclusion, après tu pourras donner ton avis si tu veux.
Eh ben, très bien.
Donc, au final, Fromage, tu vois, moi, c'est un jeu qui, à prime abord, moi, j'aurais dit qu'il avait des aspects de jeu moderne. Genre, je me suis dit, oh putain, ça va être encore un mini-euro chiant, tu vois. Je dis mini-euro et pas PPP parce qu'il y a un plateau central, tu vois. Mais bon, on aurait pu penser que c'était un PPP, tu vois, vu de loin. Mais en fait, il cache plutôt un sentiment de retour vers les jeux à l'allemande de l'âge d'or du jeu de société. Parce que hein, les années 90, début 2000, c'était l'âge d'or, sachez-le. Si vous n'êtes pas d'accord avec moi, venez m'insulter sur Discord. Sans les erreurs de game design de l'époque. Tu vois, il y avait toujours des trucs un peu bancals dans ces vieux jeux-là. Ouais. Donc là, il y a des trucs un peu plus modernes. Alors bien sûr, vu qu'il est plus moderne, il ajoute aussi un petit côté que je trouve fade. Qu'il y a dans les jeux modernes, notamment avec ces mini-jeux bah, qui font un peu salade de points inutiles, tu vois, dignes des pires Cascadia ou Acropolis, tu vois, il y a juste des systèmes de points chiants, tu vois. Mais au final, c'est un point assez peu important dans le jeu, car tout tourne autour de cette mécanique de tempo qu'il exploite très bien, en tout cas mieux que Tsulkin. Du coup, à la fin, on n'est pas sur un jeu parfait non plus. Parce qu'il n'est pas assez, je dirais, original pour ça. Tu vois, je vais préférer Tag Team pour citer un jeu du mois que j'ai fait récemment, que je trouve beaucoup plus original. Mais bah, ça reste quand même un très bon jeu. Tu vois, si je devais le noter, je mettrais 15 sur 20, tu vois, un truc comme ça. Voilà. Et toi, Kurtz, qu'est-ce que tu as pensé de ton unique partie de Fromage
Alors, j'ai apprécié mon unique partie de Fromage. Il ne faudra pas que ça reste mon unique partie de Fromage. Dans le sens où c'est typiquement un jeu où tu sens une petite courbe de... Petite, hein, ça va pas être un truc de dingue, mais il y a quand même une courbe d'apprentissage où très vite, dans ta première partie, tu te retrouves à... J'ai pas d'ouvrier.
J'ai pas d'ouvrier.
Voilà. Tout mon plan se casse la gueule. Je n'ai pas d'ouvrier. Bon, ça, c'est dommage. Je pense que c'est ce que tu disais. Il faut trouver... faut se mettre dans le rythme. Faut se mettre dans le tempo du jeu. Ce qui, sur une première partie, est compliqué, on va pas se mentir. Mais je pense que passer ça, une fois projeté dans le jeu des prochaines parties, il y a un vrai plaisir. Malgré le fait que je suis assez d'accord avec toi, les mini-jeux sont pas individuellement, sont pas passionnants, sont pas intéressants. Mais comme tu dis, on sent bien l'héritage de ce qui se passait avant. On sent bien qu'ils ont pris compte de... Ah, il y avait ça dans les anciens jeux, c'était sympa. Qu'est-ce qu'on peut en faire maintenant et qu'il y a une petite touche moderne. J'ai apprécié, oui, j'ai aimé ma part.
Ouais, je suis assez d'accord qu'il y a des dynamiques un peu cachées et que du coup, tu peux un peu te faire avoir à la première partie. Mais moi, tu sais, c'est plutôt le sentiment genre... Ah, ok, c'est bon, j'ai compris le jeu, tu vois. Maintenant, faut que j'y rejoue parce que...
Oui, c'est ça. Ouais, absolument.
C'est genre, t'as ça avec... alors, en beaucoup plus fort, t'as ça avec Faraway, tu vois.
Ah oui, clairement. Oui.
Faraway...
Faraway, tu peux pas ne pas te planter sur ta première partie, c'est clair.
Ouais, mais c'est fou parce qu'en fait, tu sais, les gens, ils te disent « Attention, ça marche comme ci, comme ça. » Moi, je dis « T'inquiète, j'ai l'habitude, je joue à des jeux depuis longtemps et tout. » Puis tu joues. Puis après, tu fais « Ah putain, ok, non, j'avais pas compris cette dynamique, je me suis fait avoir. »
Voilà.
Tu vois, c'est fou,
et là, c'est pareil. C'est... Attends, tu veux dire que mon ouvrier, je le récupère que dans deux tours. Ah, mais j'avais pas du tout prévu ça. Voilà, ouais, c'est ça.
Ouais.
Non, et puis une fois que t'as saisi ça, tu rentres dans le rythme et ça va se faire. Tu dis, oui.
Mais ça va, c'est pas aussi pire que Faraway. C'est largement pas aussi pire que Faraway.
Non, on est d'accord.
Je pense même la première partie, t'arrives quand même à faire un peu des trucs, tu vois, ça qui est cool.
Oui, ah oui, j'ai pas été... Non, je me suis pas senti à la rue hein, non plus. Hein. C'est juste que ça m'est arrivé une fois pendant la partie, je suis tout nu.
Voilà.
Tant pis, ça va un peu ralentir. Bon,
mais t'as fait des grosses actions aussi, tu vois, du coup.
Hein. Oui, voilà, bien sûr. Oui. Des grosses actions que j'ai peut-être un petit peu mal timées. Bon, c'est pas grave. Hein, voilà.
Ok, bah écoute, je te propose qu'on s'arrête là pour fromage.
Très bien.
Et que du coup, on passe à ta partie.
On passe au dessert.
Voilà. Et du coup, pour le dessert, tu nous as prévu des... je cherche un jeu de mots genre éclair of time ou je sais pas quoi, mais je vais pas essayer, donc echoes of time.
Oh. Echoes of time, oui. Alors, rassurez-vous, c'est fortuit. Je ne vais pas faire dans les jeux du mois que des jeux avec time dans le nom.
Ah oui,
c'est vrai que la dernière fois, j'ai fait Tech Time.
Tech Time.
Et c'est le hasard. C'est le hasard. Donc aujourd'hui, on part du côté de l'Italie pour un jeu que j'ai essayé la première fois en Allemagne. Alors vous voyez, on voyage. Donc la première approche de jeu Echoes of Time, c'était à Essen. C'était un premier jeu du matin pour les plus courageux de nos auditeurs qui ont écouté en entier le débrief des scènes. Lana en avait parlé, c'est un jeu qu'elle voulait absolument essayer. Donc on l'a accompagné, oui. On a testé ça un matin tôt. Et puis bah, moi je voulais, comme il m'avait quand même... il m'avait fait une impression... Il m'avait fait une impression. Voilà, je voulais juste dire ça. Il m'avait fait une impression la première fois que j'y avais joué.
Okay.
Puis je me suis dit... Est-ce que j'ai aimé, est-ce que j'ai pas aimé? Je savais pas à l'époque. Il fallait que j'y revienne. Il fallait que je me refasse un avis. Puis par chance, on me l'a offert à Noël. Donc ça a été l'occasion de relancer la machine sur Echoes of Time. Alors déjà, en premier point, je tiens à dire un mot sur les illustrations, sur la direction artistique du jeu, que je trouve fantastique. Il est magnifique. L'illustrateur, c'est un gars qui s'appelle Giovanni Calore. C'est le seul jeu sur lequel il a bossé. Pour le moment, il est graphiste, il fait autre chose ailleurs, mais dans le monde du jeu de société, c'est son seul jeu. Les cartes sont magnifiques. Elles ont toutes une personnalité dingue. Il y a la moitié des cartes, c'est des personnages. L'autre moitié, ce sont des artefacts. Tous les personnages, ce sont des petits animaux anthropomorphes. Superbe. Vraiment, ça mérite de s'arrêter juste sur les cartes dans un premier temps.
Est-ce que t'en as pas marre, toi, des animaux anthropomorphes?
Pas encore.
Pas encore, ça va.
Pas encore. Tant que j'arrive... Alors, il y en a qui n'ont aucun intérêt. Là, vraiment, c'est pas... C'est... Là, ça va. C'est beau. Faut que ce soit beau, faut que ça continue. Si c'est pour faire du quelconque, ça va pas être intéressant, on est d'accord.
Je sais pas si c'est depuis Route ou quoi que les éditeurs ils font ça, mais ils sont dans un délire en ce moment.
Ils sont dans un... Oui, c'est vrai. Je pense que Route a dû mettre un... doit être un bon point de départ. Faudra qu'on demande à Elodie de faire une spéciale animaux anthropomorphes, peut-être.
Ouais, bah elle avait fait Agent Avenue, mais oui, c'était...
Oui, c'est vrai.
C'était pas aussi large que l'entièreté du style, non. On va dire.
Non, c'est vrai, les animaux, oui, oui.
Animaux anthropomorphes.
Alors, dans Echoes of Time, on a un plateau personnel qui va représenter le temps qui passe. Et ça, c'est très important. C'est le cœur du jeu. Et donc, sur ce plateau, on va faire le geste régulièrement, une fois par tour, de faire avancer une partie des tuiles de son plateau personnel pour faire avancer le temps. Et moi, ça, je trouve ça très intéressant. On avait vu ça dans un jeu il y a quelque temps qui s'appelait Ancient Knowledge. Ça te parle? Tu y avais joué à celui-là?
Alors oui, je connais le jeu, mais j'y ai pas joué. Mais alors, ce que je ne sais pas, par contre, c'est est-ce que dans Ancient Knowledge, la mise en scène, c'est la même? C'est genre des plateaux qu'on pousse, comme ça?
Oui. Est-ce qu'on fait... Je ne sais plus. Je ne sais plus. On pousse les plateaux ou on fait juste glisser les cartes dessus? Je vais pas te mentir, je sais plus.
Ok, ouais, bon, peu importe. Mais...
Dites-le nous en commentaire.
Ouais, mais en tout cas, dans Echoes of Time, on pousse des plateaux, quoi.
Les plateaux sont poussés, c'est très intéressant. Donc on va avoir une main de cartes pour commencer. On va jouer ces cartes, les cartes qui ont un coup. Donc on va les placer sur le plateau. Plus elles sont puissantes, plus elles vont te placer loin, plus elles vont mettre de temps à arriver. Et puis on va défausser aussi une poignée de cartes de sa main. Très classique. Les cartes avec un double coup. Donc c'est un jeu à moteur. Parce qu'une fois que les cartes auront fini par arriver chez nous avec le passage du temps, elles seront dans ce qu'on appelle notre compagnie. C'est les cartes qu'on a réussi à invoquer. Vous voyez, il y a tout le lore, le jargon du jeu qui met en place le jeu.
Moi, j'ai une question.
Eh ben, vas-y, je t'écoute.
Toi qui as joué à Ancient Knowledge, du coup,
oui.
Moi, je crois, mais peut-être que je me trompe, dans Ancient Knowledge, il me semble que, en fait, quand les bâtiments, ils ont des effets tant qu'ils sont sur cette espèce de frise du temps. Et quand ils en sortent, ils sont genre détruits et t'as plus l'effet. Alors que là, c'est un peu l'inverse. Là, c'est le temps pour invoquer le truc.
C'est ça, là, c'est le temps pour les invoquer. Tant qu'ils sont... Et justement, le principe dans Ancient Knowledge, c'était de les faire durer le plus longtemps possible. Il y avait des trucs pour les renvoyer en arrière, pour les retarder, etc. Non, là, au contraire, le but, ça va être de les faire avancer le plus vite possible. Il y a des choses qui permettent d'avancer les cartes plus rapidement, des combos, des effets, ou même, il y a même une action qui permet de faire avancer les cartes, parce que les cartes dans Echoes of Time ne sont jouables, ne sont utilisables qu'une fois qu'elles ont fini de passer du temps sur la frise, sur le plateau frise de temps. Personnel, on a chacun le sien.
Ok, ouais. Ouais, c'est comme si tu les envoyais dans le futur, quoi.
C'est ça, en fait, tu les envoies. Oui, oui, quelque part, oui. Oui, oui, tu les fais voyager dans le temps.
Ouais, ouais.
Et c'est très agréable. Ne serait-ce que la manipulation de se dire j'ai les cartes, je vais les poser à cet endroit-là, je vais faire glisser les cartes, ou bien je vais faire glisser les tuiles en fonction des actions, etc. C'est plaisant. S'il y a une vraie immersion, je me comprends, hein, c'est une vraie immersion, un vrai plaisir tactile. Alors toi, tu y as joué en une action physique. Alors toi, tu y as joué en dématérialisé, mais t'as ressenti ce côté où on faisait. T'as ressenti ça ou pas suffisamment
Oui, bah en fait, moi j'y ai rejoué sur Tabletop Simulator.
Oui.
Je trouve que je le ressens beaucoup plus dans Tabletop parce que.
Tu l'as ressenti quand. T'as réussi à le ressentir malgré le fait que t'étais en dématérialisé.
Ouais, bah enfin. Oui, j'imagine que ce serait plus fort en vrai, mais au moins sur Tabletop, le mode est bien fait de sorte que ça décale vraiment, tu vois. Je sais pas comment dire, il y a une petite animation de trucs qui se décalent.
Ah oui, bon, oui,
du coup, ok. Ça me donne vraiment l'impression de décaler les trucs, tu vois. Mais c'est surtout le fait que les cartes s'emportent avec qui est important, je trouve, dans cette espèce de,
ouais, bien sûr, ouais,
de sentiment de je sais pas de rivière du temps qui s'écoule, tu vois.
Oui, exactement, ouais, tout à fait. Et puis bon, après les cartes vont avoir des effets, donc elles vont avoir plusieurs effets. Il va y avoir des effets uniques qui vont être déclenchés uniquement quand la carte va arriver devant chez nous, ou des effets qui vont se faire une fois de temps en temps en fonction d'autres éléments, ou des effets permanent quand il y a une autre carte qui est jouée, ou des effets seulement de fin de partie. Très classique. On va manipuler dans ce jeu beaucoup de cartes. Le tas est assez épais, mais mine de rien, il va vite. Parce que comme je vous disais, pour pouvoir jouer une carte, il faut des fois en défausser jusqu'à 3, 4, 5. Donc il y a certaines cartes, on va avoir l'impression que certaines cartes ne vont servir que de monnaie. C'est vrai qu'elles vont vite dégager, on va à peine les regarder, ce qui est dommage au vu des illustrations. Elles vont juste dégager pour faire de la monnaie, pour jouer la grosse carte balèze. Très bon point pour le jeu, il n'y a pas besoin de retourner 50 fois dans le livret de règles pour se dire « Oh là, attends, cet effet, il fait quoi? Ce symbole, c'est quoi ?» Il y a 3-4 symboles, une fois qu'on les a compris, c'est instantané, c'est pas comme chez certains auteurs qui aiment bien multiplier les effets, de plus savoir quoi en faire... Après, bah, très classiquement, le jeu est divisé. Il y a des familles de cartes. Donc, comme je vous disais, il y a les animaux et les artefacts qui vont avoir de différents pouvoirs. Puis après, il y a les différentes familles qui sont symbolisées par des petits logos qui sont sur les cartes, qui vont souvent comboter entre elles. Très très vite, quand le jeu commence, on va prendre des directions. On va vite comprendre que, en fonction des cartes qu'on a, ça va être intéressant de jouer. Je vais faire tel type d'action, je vais plutôt faire tel type d'action, ça va bien comboter comme ça, ça va bien comboter comme ça. Alors est-ce que pour toi, quand le fait de, par exemple, connaître un jeu trop vite, ça pose problème, ou pour toi c'est quelque chose de bien, et ça permet d'être vite lancé, de pas avoir à se prendre la tête pendant le jeu?
Connaître un jeu, genre connaître ses dynamiques et ses stratégies,
voilà,
et tout,
oui.
Ça Oh non, je m'en fous, moi. Enfin,
ouais,
je sais pas. En fait, si tu veux, il y a des jeux où ça va être très immédiat et je comprends tout de suite, mais c'est bien quand même. Et il y a des jeux où il y a un petit plaisir à découvrir les stratégies. Mais ouais, je vais pas. Je sais qu'il y a des gens qui aiment pas être spoilés des stratégies, tu sais.
Ouais.
Mais
ah ouais.
Moi, je suis pas comme ça. Moi, je suis tout à fait le contraire. C'est-à-dire que moi, par exemple. Quand quelqu'un a bien l'habitude d'un jeu, je préfère qu'il me backseat un peu, tu sais comment on dit, qu'il m'accompagne
un peu.
Ouais. Et à l'inverse, quand il y a des débutants, je préfère les mettre un peu à, à mon niveau, tu vois, si c'est un jeu que j'ai bien poncé, tu vois, pour pas
Oui,
que ce
bien sûr,
soit.
t'as plutôt intérêt à faire partir dans telle direction, ou bien de dire t'as telle possibilité qui s'ouvre. Oui,
Ouais,
bien
c'est
sûr, je
ça.
vois tout à
Genre,
fait
ou
ce que
fais
tu veux
attention,
dire.
cette carte est forte, tu vois, des trucs comme ça.
Oui, bien sûr, oui.
Juste ça, tu vois, juste dire les cartes sont fortes. Après, dans Echoes of Time, je t'avoue, là, tu vois, j'ai fait une partie et demie, tu vois, j'ai pas encore en tête toutes les cartes. Déjà, je suis même pas sûr que j'ai vu toutes les cartes. Donc, j'ai pas encore forcément en tête toutes les espèces de stratégies qu'il y a. Et
Oui,
j'ai pas
mais tu
l'impression, tu vois, que.
as compris les grandes lignes, les directions qu'il faut suivre pour.
Mais ouais, tout ça pour dire que je sens ce que tu veux me dire, qui est que, effectivement, il n'y a pas non plus 1000 stratégies, tu vois. Il n'y a pas de trucs trop cachés non plus. Donc, moi, en tout cas, si c'est ça que tu veux me dire, j'ai trouvé que on comprenait assez vite les effets. Comme tu dis, il n'y en a pas 5000, on capte vite qu'est-ce qu'il faut faire, je trouve, personnellement.
Voilà, oui, parce que là, justement, en fait, je voulais parler maintenant d'un jeu auquel moi, j'ai pas joué, mais auquel souvent, Echoes of Time, j'ai lu des comparaisons. Ça va être Race for the Galaxy, avec le moteur des cartes, les synergies, la sensation de course. Alors, toi qui y as joué, est-ce que tu vois dans quelle direction ça se dirige, cette comparaison?
Oui, bah alors le premier truc évident, c'est qu'il y a la mécanique de pour jouer une carte, tu dois en défausser d'autres. C'est quand même le truc que Race for the Galaxy
Oui.
a inventé, tu vois. Donc, et le fait que ça soit un jeu de combo de cartes, tout simplement. Mais justement, dans Race for the Galaxy, tu parlais là des différentes stratégies. Je trouve que Race for the Galaxy, il est beaucoup plus riche en termes de stratégies différentes. T'en as genre dans le jeu de base, tu vois, t'as 12 espèce de stratégie principale. Et toutes les cartes vont être toujours soit dans l'une, soit entre deux stratégies, tu vois. Et tu vas avoir les développements 6 qui ressent qui comment dire te montrent un petit peu sont quoi ces 12 stratégies. Un petit peu comme dans Echoes of Time, tu sais, t'as les pierres. Tu vois, t'as des pierres genre l'améthyste ou les trucs comme ça.
Oui, bien sûr, oui, de tous les artefacts, oui.
Voilà, qui représentent ces stratégies aussi, tu vois, qui te disent, ah bah ça fait 3 points par petit
Ouais.
soldat. Ah oui, ok, donc c'est une stratégie, la stratégie petit soldat, tu vois. Et donc tu vois, c'est là que je vois un rapport. Mais en fait, Tom Lehman, donc l'auteur de Race for the Galaxy, quand il a conçu Race for the Galaxy, on voit qu'il a conçu ça comme une extension de Magic, en fait. C'est-à-dire que t'as des espèces de stratégies par couleur dans Magic. Bon, dans Race for the Galaxy, c'est pas les couleurs, c'est juste les stratégies, quoi. Et t'essayes de faire des cartes qui sont des. Tu sais, dans Magic, on appelle ça des signposts. Comment on dirait? Des panneaux de signalisation, quoi. Qui servent juste à te dire, ah ben regarde, moi je suis la carte qui te valorise cette stratégie, tu vois. Pour que tu comprennes que.
Prends cette direction.
Oui,
Oui,
voilà, ouais,
je
c'est
vois tout
ça.
à fait, ouais.
Ouais, et donc du coup, bah, je ressens aussi ça, tu vois, dans Race for the Galaxy et dans Echoes of Time. Mais bon, après, je t'avoue que moi, je vais préférer 1000 fois Race for the Galaxy parce que c'est un des meilleurs jeux de tous les temps. Mais pour tout un tas d'autres raisons, et il faut vraiment que tu y joues un jour, quoi. Mais
Ah bah c'est un joueur, c'est pressé, oui. Oui, il faudra.
t'as aussi récemment commencé Forêt Mixte, qui a ce principe-là, tu sais, de défausser des cartes pour en jouer d'autres. Mais qui ne vaut pas Race for the Galaxy, bien sûr.
Ouais.
Largement pas.
Oui, alors ce que j'ai pas dit dans Echoes of Time a trois fins de partie possibles qui peuvent arriver l'une ou plusieurs en même temps. On va pouvoir finir si un joueur a invoqué un certain nombre de cartes devant lui. Donc, dans ce cas, on arrête, on compte les points. Il y a des sources à conquérir. Si toutes les sources ont été conquises, il y a un petit système qui est sympa pour conquérir les sources. Si toutes les sources ont été conquises, ça met fin à la partie, on compte les points. Et il y a un certain nombre de points de victoire. Donc, le nombre de points de victoire, il y a 12 points de victoire qui sont mis sur la table en début de partie par joueur. Et si à un moment tous les points de victoire ont été pris par quelqu'un, tous les points de victoire ont été gagnés, la partie s'arrête et on compte les points. Alors je tiens à revenir quand même sur les sources parce que je trouve que c'est quand même la partie la plus sympa, la plus interactive. On peut se bagarrer les sources entre joueurs parce qu'une source de base a un certain nombre de points de défense. Nous, les personnages qu'on a invoqués, il y en a certains qui ont des points d'attaque. Bon, bah pour attaquer une source, il faut être plus fort qu'elle. Donc je l'attaque, je la prends devant moi. Mais mon voisin peut venir me la contester. S'il attaque avec plus fort que maintenant ma défense de la source. Donc ça permet une petite interaction entre les joueurs. Et surtout, à chaque fois que quelqu'un conquiert ou fortifie une source, ça déclenche des effets qui sont quand même assez puissants. Et parfois un petit peu négatifs pour les camarades. Oui, t'as bien entendu, tu vas défausser la moitié de ta main arrondie au supérieur. Ah ouais, mais ça fait beaucoup de cartes. Ah, je suis vraiment désolé. Cette partie-là, je trouve que c'est quand même la partie la plus intéressante. La partie des points de victoire et du nombre de cartes devant soi est presque oubliable comparée à la bagarre des sources. Qu'est-ce que t'en penses?
Ouais, c'est rigolo parce que effectivement, ça fait penser au truc dans Res Arcana, là, tu sais, les grosses cartes qu'on met au milieu là. Mais sauf que, comme tu dis, on se les pique. Dans Res Arcana, c'était vraiment la course à qui va la prendre la première, tu vois. Et ça orientait les stratégies. Là, ça, par rapport à Res Arcana, ça oriente pas trop les stratégies, déjà.
Non, 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 non,
Premièrement.
bah si tu vas faire une stratégie d'essayer de jouer des personnages qui sont un petit peu balèzes pour pouvoir aller à la bagarre,
Oui,
mais
mais
c'est
quelle que soit la
pas
source. Quelle que soit la source.
quelle que soit la source. Oui, je vois ce que tu veux dire. Oui, il n'y a pas une source qui est spécialisée d'un tel type ou d'un tel type, elles sont toutes attaquables du moment que tu as la force pour y aller. Je vois ce que tu veux dire, effectivement.
C'est
Oui,
surtout
bien
que ça,
sûr.
elles
Oui.
ont pas des effets qui t'orientent trop, je trouve.
Non, on
Tu
est
vois,
d'accord. On est d'accord.
dans Res Arcana, t'as une source, tu vois, c'est genre mono ressources rouges ou mono ressources
Ouais, bien sûr.
noires,
Ouais,
tu vois,
effectivement.
ou des trucs comme ça. Ou avoir des dragons, des trucs comme ça. Mais moi, non, ça m'a plutôt fait chier les sources pour le coup, tu vois.
Ah oui, ah c'est pas
Parce
d'accord.
que je trouve que c'est un système assez tarabiscoté finalement. Bon, déjà, ergonomiquement, je trouve ça pas clair de devoir dépasser le chiffre qu'il y a écrit sur la source, tu vois. Moi, tu sais, dans ma tête, je vois un
Ça,
chiffre. Je
tu
me
te
dis,
dis,
c'est.
faut que j'arrive à ce chiffre, je vois ce que tu veux dire,
Ouais,
ouais.
je me dis, c'est
Ouais.
le coût, tu vois, c'est un genre de coût. Même si thématiquement ça a du sens, tu vois, mais bon, voilà, ça déjà, c'est juste de l'ergonomie, ça. Mais en soi, après, je trouve que, ouais, tu vois, ça ajoute une genre de complexité, mais qui aurait été intéressante si les sources avaient plus de personnalité, comme les lieux de Res Arcana, tu vois.
Mais je vois ce
Où
que
là,
tu
il y
veux
aurait
dire.
vraiment la bagarre, et tu dis, non, non, mais moi, je veux la source qui permet de faire 3 points par guerrier en fin de partie, par exemple, tu vois. Et
Oui, effectivement.
là, ouais, tu veux avoir les symboles guerriers, tu vois, c'est très clair. Mais en fait, c'est dommage qu'elle ne t'oriente pas. Tu vois. Moi, j'aurais aimé des sources plus différentes et tout. Et du coup, là, j'ai l'impression que du coup, c'est une surcouche inutile. Tu vois. C'est vraiment. C'est un gros prix pour très peu d'émotions derrière.
Ouais. Puis après, il faut quand même noter que vu qu'il y a autant de sources que de joueurs autour de la table,
Ouais.
si toi tu t'embêtes à attaquer une source, bah tu vas mettre tes points dedans. S'il y a de fortes chances que ça finisse à chacun à attaquer une source à la fin, et on se soit assez peu bagarré les sources. Parce que c'est vrai que si toi tu as mis ton énergie à jouer les cartes, les faire venir, les invoquer devant, les avoir dans ta compagnie. Ça y est, j'ai enfin la force pour attaquer une source. Est-ce que j'attaque la source qui est disponible ou est-ce que je vais aller embêter l'autre, essayer de lui piquer sa source? Bon, ce jeu n'est pas parfait non plus. Hein. Je l'apprécie, mais j'arrive quand même à noter les petits points négatifs comme ça.
Moi, j'ai fait une partie où j'ai bien aimé parce que on a joué à deux et j'ai fini avec les deux sources fortifiées chez
Oui.
moi, ce qui a
Oh,
causé la fin de
joli.
partie, mais j'ai perdu
Parce
parce
que t'avais
que
moins de points.
j'avais moins de points, ouais, c'est-à-dire que l'autre personne avait joué à fond point de victoire tu sais, de la banque, quoi.
Ah, tu peux
Et.
avoir. Oui, elle s'est fait un moteur à point de victoire. Il y a
Ouais.
une dynamique qui le permet. Ouais. Oui, bien sûr. Ah oui.
Tu sais, genre, elle avait la tortue, là, la tortue qui fait un point de victoire par tour, parce que tu sais, elle avait
Ouais.
trois flammes, donc elle fait un point par
Oui.
tour.
Ah oui, bien sûr, oui. Ça, c'est un goodie.
Ah, ok, bon, il est sur tabletop.
Une carte goodie. Ça. Il y a deux cartes goodie et elles sont puissantes. Oui, parce que ce que dit Pionfesseur, en fait, c'est qu'il parle de flammes. En fait, les petites tuiles qu'on avance, il y aura toujours une tuile qui sera en dehors de notre plateau. Et chaque tuile a une flamme. Donc, il y a trois couleurs de flammes. Il y a des couleurs qui reviennent plus souvent que d'autres. Et on peut invoquer le pouvoir des flammes. Donc si les cartes qui ont des pouvoirs rouges, mettons, si c'est la carte rouge qui est en dehors de mon plateau, je vais pouvoir déclencher tous les effets rouges. Et ce qui est intéressant, c'est que justement, une carte dont j'ai déclenché l'effet, je ne peux pas m'en servir pour autre chose. qui aurait été quand même un peu pété. Donc si mon guerrier, j'ai déclenché son effet rouge, je ne peux pas ensuite au même tour aller m'en servir pour attaquer une source. Donc de là, faut faire un choix. Même chose, si avec mes cartes bagarres, j'ai attaqué une source, les cartes ne sont plus disponibles dans ma compagnie, elles partent sous la source. Donc il faut choisir, est-ce que je garde les cartes devant moi pour avoir leurs effets? Est-ce que j'envoie les cartes à l'attaque des sources? Dans ce cas, je possède la source, mais je n'ai plus les cartes pour faire leurs effets devant moi. C'est ce côté moteur, mais un moteur qui à un moment va, comme dans de nombreux jeux, où le moteur va se dégrader à un moment parce que tu vas utiliser le moteur lui-même pour faire autre chose. Comme dans, je sais plus, il y a d'autres jeux qui le font. J'ai pas de titre en tête là tout de suite.
Bon, le premier c'est Guts of Glory. Alors, maintenant on le sait dans Nanar Ludique, mais ça c'est seulement
Exactement, oui, c'est
pour l'élite qui écoute Nanar Ludique, attention.
vrai.
Mais non, sinon c'est plutôt Elysium le premier à avoir fait ça.
Oui, c'est ça. Oui, bien, par exemple, oui, c'est voilà, un super exemple. Oui. Est-ce que je garde ma carte pour l'effet ou est-ce que je l'envoie au Valhalla? Et voilà.
Mais tu vois, le truc là dans les sources, tu me fais penser, mais c'est justement un des trucs qui m'a gonflé, c'est que, tu vois, dans la phase 1, tu mets tes mecs en dessous, mais en fait, ils ont toujours leurs icônes et tout ça. Mais après, quand tu fais la phase 2, donc fortification là, ah là, t'as plus les icônes des bonhommes, tu vois. Mais par contre, leur point de victoire compte quand même en fin de partie. Putain, tu vois, c'est chiant, c'est super compliqué
Oui, je suis assez d'accord avec
pour
toi.
juste faire une rustine de game design, tu vois.
Alors, il compte encore pour son icône, mais je peux plus faire son effet. Oui. Puis
Ouais, ça.
après, si tu veux pousser le vice de la critique un peu plus loin. Alors, ok, donc les personnages que j'ai devant moi valent une carte, parce que j'avais dit tout à l'heure que la fin de partie peut être déclenchée par le nombre de cartes qu'on a devant soi. Les personnages que j'ai devant moi valent une carte, mais quand elles partent sous une source. Il ne
Oui,
compte plus de points,
elle compte
mais la
plus.
source vaut deux cartes, attention.
Ouais.
Bon, ça, c'est un petit quelque chose, un petit point un petit peu désagréable, mais pas catastrophique.
Bah disons que c'est chiant, mais pour rien, en fait. Tu vois, c'est chiant juste parce que ils se sont rendus compte que c'était pas équilibré. Alors, ils se sont dit, oh, on va faire une rustine parce que, voilà, tu vois, il y a un trou dans le pneu du game design, donc on met une rustine.
Voilà, bon,
Mais du coup,
c'est pas.
ça fait pas une très jolie roue à la fin, tu vois.
Oui, c'est vrai, je suis d'accord avec toi. Oui, j'avais dit, je ne trouve pas le jeu parfait non plus. Hein, je lui reconnais des défauts. Hein. Par exemple, un autre défaut, c'est je pense que à un moment, est-ce qu'il a une vraie rejouabilité? Alors oui, il a une rejouabilité. Est-ce qu'il a une rejouabilité sur 10, 15, 20, 50 parties? Je suis pas sûr. Je suis pas sûr. Au bout d'un moment, est-ce que des martingales vont pas se dégager? Est-ce qu'on va pas avoir très vite compris que de toute façon, dans le paquet de cartes, il y a deux tas. Les cartes qu'on joue, les cartes qu'on défausse. Et au bout d'un moment, vu que le paquet n'est pas infini non plus, on va assez vite connaître les cartes. Voilà. Il va être intéressant sur quelques parties. On va avoir des parties qui seront marquantes. Ça va être plaisant d'y jouer. Voilà. Qu'est-ce que t'en penses, toi?
Je sais pas trop. Bah, peut-être que ouais. L'absence d'effet dans les sources, tu vois, comme je te disais, c'est ce qui fait que ça va manquer pour un peu le renouvellement, tu vois, parce
Oui.
que tu vois, dans Res Arcana, ce qui est cool, c'est, tu vois, l'espèce de déduction que tu dois faire entre les trucs au centre, les cartes de ta main et ton petit sorcier là qui change, tu vois. Tout ça change d'une partie à l'autre. Alors
Oui.
que là, c'est juste le tirage des cartes, mais bon, je sais pas, parce que Rise of the Galaxy, c'est juste du tirage de cartes et ça fait quand même des parties très très diversifiées, je trouve.
Oui, c'est vrai. Non, mais à voir, hein, peut-être que maintenant que je le possède, je le ressortirai une fois de temps en temps et j'y prendrai. Non, non, je pense que j'y prendrai toujours du plaisir, il n'y a aucun problème à ce niveau-là. Ça, c'est certain. Voilà. C'était une petite pondération de ce que. Voilà. Après, je tenais à apporter un avis très personnel, mais qui apparemment est quand même pas mal partagé. C'est un jeu qui se joue de 2 à 4 joueurs. À 4, on va vraiment jouer de son côté. C'est vraiment la sensation que j'ai. Par contre, pour y jouer à deux, on va avoir une. Le côté course va être amplifié, on va avoir une meilleure lecture de ce que fait l'autre, avec une petite possibilité de jouer plus en fonction de l'autre joueur. Et a priori, de ce que j'ai vu, c'est relativement cohérent avec les avis sur BGG. Il va avoir une tendance à vouloir être joué à deux joueurs, ce jeu.
Seul truc un peu nul à deux, c'est qu'il n'y a que deux sources au milieu de la table. C'est un peu triste, tu vois, mais.
Il n'y a que deux sources au milieu de la table. Et vu que tu es un petit peu dépendant des tirages de cartes, il est possible. Mais bon, après, ça peut faire un effet de ce que tu as eu. Hein. Tu as gagné les deux sources, tu as perdu quand même, tu vois.
Ouais,
Donc,
ouais,
est-ce
ouais.
que. Bon, c'est pas.
De plus, tu vois, j'aime bien avoir trois sources parce que je sais pas, ça fait plus de trucs sur lesquels on se bat, tu vois, je sais pas.
Oui,
Mais ça va après,
après,
ça va.
il n'y a pas grand-chose qui, à deux joueurs, empêche de mettre trois sources au milieu de la table. Hein, on va pas se mentir.
Non mais je suis quand même d'accord, je pense que j'ai quand même préféré à part pour les sources, tu vois, je pense que j'ai quand même préféré
Ouais.
à deux, juste pour le côté moins de downtime. Mais alors, comme je disais dans Fromage, tu vois, le downtime, le problème c'est quand c'est du downtime où on n'agit pas, tu vois. Et en fait là c'est juste, t'attends, tu regardes le gars faire, tu fais oui d'accord. T'as fait tes. En fait il fait 1000 calculs pour jouer une pauvre carte, tu vois, et tu fais oh, tu vois. Je me
Alors,
fais chier quoi, tu vois.
il peut arriver, je préfère prévenir, c'est un truc qui m'est arrivé sur une partie, ce qui m'était déjà arrivé une fois sur Smash Up, et que personnellement, j'aime pas, c'est quand un autre joueur a très très bien joué, et que pendant 5 minutes, il combotte. Je vais pas vous mentir, moi, au bout d'un moment, ça m'agace un peu à regarder. Alors, je joue ça, ça fait avancer mon truc, ça fait rentrer la carte. Vu que la carte elle rentre, elle a l'effet bleu. Le bleu, il fait ça sur telle autre carte, etc. Je pioche deux cartes, je repose. Tu le dis si on t'embête ou tu. Enfin bon, c'est très léger. Alors, ça dure pas 8 minutes non plus, hein. C'est
Ouais.
juste que ça peut être un petit peu agaçant quand ça arrive à quelqu'un d'autre et que nous, on n'a pas le niveau.
Non, moi je m'en fous, moi, ça, tu vois. Moi, en fait,
Non, mais si,
je
tant
préfère
mieux.
voir ça, tu vois,
Oui.
que de voir quelqu'un qui réfléchit pendant 8 minutes, en fait, tu vois.
Ah, ça, je suis d'accord avec toi.
Tu vois,
Oui, alors
c'est
que ce.
ça le truc, c'est ce
Oui,
que je veux dire
bien
quand
sûr.
je vois quelqu'un qui agit, tu vois, je me dis, oh, trop marrant, il est en train de comboter et tout, tu vois.
Il est
Alors
en train de
que.
comboter.
S'il réfléchit, je suis en mode oui, ben en fait oui, le jeu n'avance pas. Parce que. Mais
Voilà, effectivement.
c'est pas de la
Oui.
faute
Non,
de la
non, je.
personne, hein, tu vois, c'est de la faute du jeu qui est trop calculatoire, en fait.
C'est vrai. Alors que là, non, c'est pas, il y a pas, tu vas pas, ouais, tu peux pas avoir une analysis paralysis dans ce jeu, ou très légère. C'est quand même assez, c'est ce que tu disais, il y a quand même des directions qui se donnent en fonction des cartes que tu vas avoir en main. C'est assez évident de savoir qu'il faut te diriger vers celle-là en fonction de ce que tu as déjà joué. Au pire, au début, tu vas te poser des questions à savoir quelle direction j'ouvre, mais c'est tout, hein. Il n'y a pas de.
Là, la découverte,
Voilà.
c'est plutôt. Ah, c'est. On découvre les pouvoirs, tu vois. C'est plus ça
Oui.
qui est drôle à voir chez les autres, quoi.
Est-ce que tu veux dire un mot avant que je conclue?
Bah déjà, on peut dénoter qu'on a tous les deux fait des jeux avec une sorte de frise du temps qui avance toute seule, tu vois.
C'est vrai,
D'une manière
c'est vrai.
différente, mais. C'est. Tu sais, c'est drôle parce que tu sais, c'est comme quand ils avaient fait Cardia et Terre de Loot, ils avaient fait aussi un
Oui.
rapprochement entre les deux jeux, ben voilà, faut toujours
Oui.
essayer, toujours trouver la connexion entre les jeux du mois, c'est le défi.
Alors que je vais pas te mentir, dans Tech Time et Thunder Road Vendetta, c'était plus compliqué de trouver un lien.
Ouais, à part la lettre T au début, tu vois. Et du coup, donc ouais, déjà ça. Mais bon, alors moi, si tu veux mon avis, j'ai pas aimé Echoes of Time. Mais globalement, en ce moment, je suis très blasé des jeux de combo de cartes parce qu'ils en sortent à la pelle. Et je trouve qu'il n'y en a aucun qui arrive à trop se démarquer. Et là, en fait, tu vois, les effets sont pas assez rigolos pour moi. Tu vois, en fait, c'est-à-dire que, tu vois, le fait qu'il n'y ait pas beaucoup d'effets, moi, je trouve que c'est un point négatif parce qu'en fait, j'ai l'impression que toutes les cartes, elles font pareil. Tu vois, c'est soit te faire piocher plus de cartes, soit te faire décaler dans la frise du temps. En fait, elles font que les mêmes actions que les actions de base. Et malheureusement, je trouve qu'ils exploitent pas assez du coup leur système qui est plutôt intéressant de frise du temps, tu vois. T'as un effet qui est rigolo. L'effet rigolo, c'est comme t'as dit, c'est refaire un coup de frise de temps là, t'sais, refaire un coup d'avancée là. Ça c'est cool, t'sais, tu te dis, ah ouais, putain, mon personnage il fait avancer le temps, c'est trop stylé, tu vois. Et moi, je veux plus des effets comme ça, complètement pétés, ou juste qui jouent sur ta mécanique spécifique, en fait, tu vois. Et là, ils le font pas assez, je trouve. Et du coup, j'ai l'impression que toutes les cartes se ressemblent un peu. Il y en a quand même qui ont un peu de personnalité, tu vois. Genre la tortue, elle est rigolote, mais tu m'as dit que c'était un goodies. C'est triste.
Oui, je vois ce que tu veux dire, oui.
Et ouais, du coup, je dirais pas que c'est nul à chier comme Arigato, par exemple, tu vois. Ça, on en a parlé dans un jeton dans la mare, si vous voulez savoir pourquoi c'est nul à chier, tu vois. Disons que Arigato, tu vois, c'est genre 0 sur 20, alors que là, c'est 7 ou 8 sur 20, tu vois. Parce que je ressens quand
Ah.
même, il y a quand même, tu vois, des effets de combo qui sont rigolos et cette mécanique du temps là qui est sympa. Mais bon, tu vois, ça va pas non plus atteindre la cheville de Res Arcana, qui
Ah ouais, on
lui-même
peut
est à la
pas.
cheville de Rise of the Galaxy, tu
Ouais, on peut
vois.
pas non plus.
Voilà. Et aussi, tu vois, dans le manque de personnalité, moi, un truc qui me gave, et c'est depuis Wingspan qu'il y a ça, c'est qu'ils n'arrêtent pas d'abuser sur le typage. C'est de mettre des types aux cartes. Genre, là, dans Echoes of Time, il y a trois types. T'sais, ils ont genre une faction, ils ont un symbole selon si c'est un artefact ou un bonhomme, et ils ont potentiellement un troisième symbole, genre si c'est des guerriers, des trucs comme ça. Enfin des...
Effectivement, oui.
Et donc, en fait, c'est vraiment un truc de feignant, ça, de game designer feignant, tu vois. C'est genre, oh, j'ai pas envie de créer de la personnalité, des vraies stratégies différentes qui fonctionnent différemment. Je vais juste mettre des petites pastilles qui ajoutent un type, et je vais dire, oh, tu gagnes une carte par tant de types, ou tu gagnes 2 points par élément de ce type-là que tu as et tout, tu vois. C'est trop un truc de feignant, ça m'énerve. Et puis c'est inintéressant parce que du coup, que ce soit un type ou l'autre, l'émotion finale est la même. C'est juste, oui, j'ai une réduction de moins 2 sur les guerriers ou de moins 2 sur les sorciers. Bah c'est pareil, c'est une réduction de moins 2, tu vois.
Oui, ça va orienter ton jeu, mais c'est juste le hasard de ce que tu as tiré en premier, effectivement. Je vois tout à fait ce que tu veux
Voilà,
dire.
ouais. Mais du coup, j'aurais pas le sentiment qu'ils sont différents, tu vois. Alors que si je te prends Rise of the Galaxy, tu vois, t'as les ressources qui fonctionnent pareil. Tu vas avoir par exemple les ressources découvertes, minières, de vie et aliens. Et typiquement, les ressources aliens, c'est des ressources, elles sont ultra rares, mais quand tu les vends, elles valent hyper cher, tu vois. Mais le fonctionnement est le même, c'est juste qu'elles valent plus cher quand tu les vends. Les
D'accord.
ressources minières, pareil, elles valent un peu moins cher, mais elles ont beaucoup de cartes qui permettent de réduire le coût quand tu joues une stratégie full minier, quoi, tu vois. Enfin voilà, tu vois, elles ont chacune une espèce de particularité, quoi, tu vois. Qui n'est pas une
Je vois.
particularité de règles. Donc tu vois, c'est vraiment une particularité dans la répartition des cartes dans le paquet qui crée finalement des combos, en fait. C'est surtout des particularités de stratégie, tu vois.
Je vois absolument. Ouais.
Voilà. Donc pour conclure, j'ai pas aimé Echoes of Time, quoi.
Bon, écoute, c'est noté.
Je te laisse faire ta conclusion à toi.
Et ben moi, pour conclure, j'ai aimé Echoes of Time, donc avec quelques petits bémols, comme je l'ai dit, hein, le fait que le jeu va être plus intéressant à 2 qu'à 3 qu'à 4. Mais je trouve que quand même, c'est un jeu qui a quand même des bonnes idées, qui est un condensé de bonnes idées, de choses qui se sont déjà vues, mais mis bout à bout, je trouve ça malin. Le gimmick est malin du passage du temps, des tuiles qu'on fait glisser sur son plateau personnel. Comme je disais, et je le répète, la direction artistique est vraiment, vraiment magnifique. Ça vaut le coup de s'arrêter, de s'attarder sur les cartes. Voilà, bon, pour moi, c'est un jeu qui mérite clairement d'être au moins essayé. Voilà, c'est un jeu que j'ai aimé jouer et j'apprécie derrière encore plus d'en discuter, presque de débriefer les parties, de se dire il y a telle chose qui était bien, etc. Ou d'échanger, comme ce qu'on vient de faire là, d'échanger avec toi. Voilà, c'était Echoes of Time.
Trop bien, et eh ben merci Kurt pour cette
Eh ben, avec
émission
plaisir.
et ce jeu que tu nous as critiqué. Eh ben, maintenant, on s'adresse aux auditeurs et auditrices. Que vous ayez aimé notre émission ou non, faites-le nous savoir en laissant un commentaire sur le site. Donc, le site, c'est podcast.proxy-jeu.fr. Attention, proxy, c'est avec un i et jeu avec un x. Vous y trouverez toutes les informations sur les sujets que nous avons abordés pendant cette émission. Et vous pouvez également nous contacter sur divers réseaux sociaux. On est notamment sur Facebook, Instagram, Mastodon, Blue Sky, et on a un petit Discord. Vous pouvez le rejoindre, il y a le lien sur le site. Et surtout, on vous invite à parler de nous autour de vous. On se retrouve la semaine prochaine avec l'émission Un jeton dans la mare. Et en attendant, jouez bien.